et je suis reparti du thème de cette année. Vous connaissez le thème de cette année? Vous vous rappelez? Non? On est au mois d'octobre. Hein. Ça va bien, on va bientôt changer de thème. C'est « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3, 2. Un beau programme, hein? Et ma Bible donne un titre à ce début du chapitre 3 aux Colossiens, qui est « La vie nouvelle en Christ ». C'est-à-dire en celui par qui nous sommes nés de nouveau. Nés d'en haut. Et par qui notre vie nouvelle a commencé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est donc bien là, le départ, le fondement de la vie chrétienne et donc de notre foi. La première des réalités d'en haut, puisqu'on parle des réalités d'en haut, la première des réalités d'en haut, c'est cela. C'est la vie nouvelle que nous avons en Christ. Amen. Lui qui plus est, par qui est née notre foi? Car notre foi n'est pas venue de nulle part. Notre foi est née de Christ. Non? Et donc, Hébreux 12 qui le confirme. Gardons les yeux fixés sur Jésus, car par lui, c'est celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, 2, dans la version Nouvelle Français Courant. Notez bien, celui par qui notre foi a commencé. Et ce qui est rassurant, qu'il amène à la perfection. Waouh. Ça ne vous enthousiasme pas, ça? Ça ne vous émerveille pas? Lui qui va mener notre foi à la perfection. Bien sûr, si nous la mettons en action, sinon, ce serait une foi morte. C'est pourquoi, donc, même si on les connaît, il m'a semblé judicieux de faire quelques rappels sur les fondements de la foi chrétienne. Car il nous sera difficile de grandir et progresser si ces fondements de notre vie nouvelle, ne sont pas solides et affermi. Vous ne pensez pas? Et c'est ainsi donc qu'à de nombreuses reprises, la Bible compare la vie chrétienne à la construction d'un édifice, dont je retiendrai particulièrement ce que Paul nous en dit dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 10. Vous êtes l'édifice de Dieu. Il s'adresse à des personnes nées de nouveau. Vous êtes l'édifice de Dieu. J'ai posé le fondement, Jésus-Christ, comme un sage architecte. Alors quand j'ai relu ça, j'ai dit, oh, merci Paul, tu as fait du bon boulot là. Merci. Et chacun sait qu'il existe une relation absolue entre les fondations et l'immeuble qui est construit dessus. Non? Fondation faible égale stabilité faible, risque d'affaissement, voire d'effondrement. Non? Si. Fondation solide, construction solide et pérenne. D'accord jusque-là? Oui? Alors je poursuis. Eh bien, Paul, et comme Paul nous le rappelle, il en va de même dans le domaine spirituel. Certains chrétiens peuvent démarrer avec l'intention de bâtir un bel édifice de foi dans leur vie, puis le voir malheureusement commencer à s'affaisser, s'enfoncer insensiblement, voire s'effondrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que les fondations n'ont jamais été correctement posées, ne pouvant pas alors supporter le bel édifice prévu. Alors, quelles sont là ou les fondations prévues pour notre vie chrétienne ? Là où les fondations, à votre avis ? La parole ? La foi ? Comment ? Le Saint-Esprit en fait partie. Paul répond clairement. Dans 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ceux qui m'ont répondu la parole, ça revient au même, puisque Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est donc le seul fondement. Et l'apôtre Pierre dit la même chose lorsqu'il nous rappelle la parole d'Ésaïe 28:16 à propos de Jésus-Christ. Voici en effet ce que dit l'Écriture. J'ai choisi une pierre de grande valeur, Jésus-Christ, et je la pose en Sion comme fondation. Celui qui met en elle sa confiance et qui bâtit sur elle ne sera pas déçu. 1 Pierre 2 dans la version 1 Pierre 2, 6 dans la version Parole Vivante. Ainsi, la seule et unique fondation que Dieu a prévue pour bâtir l'Église, c'est Jésus-Christ. Ce n'est ni un homme, ni une femme, aussi vertueux soit-il, ni une quelconque autre créature terrestre ou céleste. Non, l'Église n'a pas d'autre fondation que Jésus. Il est bien le rocher sur lequel est bâtie l'Église. Par conséquent, les pierres vivantes que nous sommes et qui constituent l'Église de Christ ne peuvent elles-mêmes n'avoir d'autre fondation que Jésus-Christ. Amen. Jésus dit même et affirme: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dans Jean 14, 6. Il est le seul chemin qui mène au Père. Merci mon Dieu d'avoir prévu ce chemin que tu nous as donné, Jésus, ton Fils. Et c'est une affirmation exclusive, j'affirme bien, une affirmation exclusive dans le sens où elle exclut tout autre moyen de parvenir au Père. Jésus-Christ, je le répète, est le seul et unique chemin. Il est la vérité absolue. Il est la seule source de vie. Paul ajoute même, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, dans 1 Timothée 2,5. Un seul médiateur, il n'y en a point d'autre. Quelque part, n'est-ce pas rassurant de ne pas avoir 36 chemins à chercher, de ne pas savoir par où passer? Là, on le sait, il y a un chemin, un seul, sans ambiguïté. Vous ne trouvez pas? Il n'y a pas d'ambiguïté, là. Alors, au vu de toutes ces paroles, il me semble inutile de chercher à s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose d'autre, inutile de chercher un autre chemin ou d'autres médiateurs. Ce serait une erreur. Paul dit un faux évangile. L'apôtre Pierre insiste aussi en proclamant devant la foule: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions sauvés. Acte 4, 11. Et enfin, allons jusqu'au bout, soyons fous. L'apôtre Paul ajoute: c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, en Christ. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. On ne peut pas être plus clair et complet sur la nature et le fondement qu'est Jésus. Non ? On pourrait être plus clair ? Ça manque de clarté, à votre avis ? Non. Je trouve vraiment, personnellement, que Dieu est d'une précision remarquable et ne cache absolument rien aux hommes et femmes que nous sommes. Et pourtant, certains, pour ne pas dire plus, et c'est dommage pour eux, ou pour elles, sachant que leur vie éternelle en dépend, construisent ou sont conduits à construire leur vie spirituelle sur un mélange de différentes pensées, doctrines et principes, qu'ils soient humains ou célestes. Le chemin unique qui mène au Père, que Jésus leur propose, ne leur semble pas suffisant. Mais pourtant, il est clair. Et ils y rajoutent d'autres chemins. Mais attention, rendant par là caduc pour eux le chemin unique proposé par Jésus. Ils sont souvent très sincères. Mais ça m'a rappelé la parole d'un de mes pasteurs, voilà une quarantaine d'années, qui avait été un des pionniers ayant participé au réveil en France, et qui disait: on peut être sincère, même très sincère, et être dans le mauvais train. Alors attention, car nous aussi parfois, par notre sentimentalisme, notre souci d'être agréable avec les autres, de ne pas heurter, de rassurer, nous pouvons contribuer à créer la confusion par nos propres paroles. Par exemple, mais il y a bien d'autres exemples ou circonstances ou situations. Il y en a bien d'autres. Lors d'un décès, lorsque nous disons dans nos conversations avec ceux qui sont là, chrétiens et souvent non chrétiens, lorsque nous disons à propos de l'être cher que nous avons perdu, il a fait tellement de bien dans sa vie qu'il est maintenant auprès de Dieu. Ou il a tellement été actif dans son Église que maintenant, il est forcément auprès de Dieu. Des choses que j'ai entendues. Hein. Pas forcément ici. Hein. Ou j'ai prié pour lui dans ses derniers instants. C'est pourquoi je sais maintenant qu'il est auprès de Dieu, car j'en ai reçu la paix. Alors, nos proches en question sont peut-être effectivement auprès de Dieu, mais pas du tout pour les raisons invoquées ici. Alors soyons vigilants. Car que vont retenir de ces paroles ceux qui sont ni affermis, ni convertis, voire non-croyants, ceux envers qui, et pourtant par amour, nous avons un devoir, nous chrétiens, nous nés de nouveau, un devoir de vérité. Suite à ça, qu'est-ce qu'ils retiendront ? N'étant pas affermis, ni même convertis peut-être, ils retiendront qu'il suffit de faire le bien pour avoir une place auprès de Dieu. Ou que si quelqu'un prie pour eux à leurs derniers instants, ils seront sauvés. Nous aurons, par nos paroles, dans ces cas-là, créé la confusion. Et au pire, les aurons dirigés sur une fausse piste, un mauvais chemin. C'est ce que l'apôtre Paul appelle un faux évangile ou des fables qui ne viennent pas de Dieu, même si elles rassurent et apaisent les cœurs. Car je le répète, on l'a vu tout à l'heure, Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Christ, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, dans ces circonstances, j'ai rarement entendu ce genre d'affirmation, comme celle-ci. Il est auprès de Dieu, celui que j'aime, que j'ai aimé, ou le proche. Car il a cru de tout son cœur et confessé de sa bouche que Jésus-Christ était son seul et unique sauveur. Grâce de Dieu dans laquelle il a mis toute sa foi. Rarement entendu. Et pourtant, l'évangile, c'est cela. C'est ce que Paul dit. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, Romains 19. Et Paul poursuit même au verset 14. Alors, comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle, telle qu'elle est, Romains 10, 14. Et qui sont les messagers pour proclamer la bonne nouvelle, telle qu'elle est ? Qui sont-ils ces messagers ? Nous. Chrétien, né de nouveau. Un jour, une personne croyante, très sincère, à qui je présentais ce message de salut, dont je croyais qu'elle le connaissait, m'a dit: mais Dieu, Gérard, Dieu est miséricordieux. Alors, je ne peux pas me résoudre à croire que quelqu'un qui aurait fait le bien toute sa vie, même sans croire à ce plan de salut, ne serait pas sauvé. Et faisons attention à ce que nous croyons, à ce que nous proclamons. Eh bien non, ce n'est pas le plan de salut de Dieu. Veillons bien aux fruits que nous portons et diffusons. Parfois, dans le flux d'une conversation, on est amené, sans trop réfléchir, à dire des choses d'une banalité qui sont un peu à côté de la plaque. D'ailleurs, Jésus nous exhorte fermement à cela dans le serment sur la montagne. Vous lirez Matthieu 7, 17 à 20. Car c'est à nos fruits, dit-il, non seulement nos actes, mais aussi nos paroles, que nous sommes identifiés. Est-ce que le sarment que nous sommes, greffé au cep qu'est Jésus, peut porter de mauvais fruits ou des paroles qui créeraient la confusion? Oui ou non? Non, si le cep auquel nous sommes greffés, eh bien, Jésus seul. Et ce sermon sur la montagne, donné par Jésus avant de commencer son ministère itinérant en Galilée, c'est le cœur de son enseignement. Assistez bien, c'est le cœur de son enseignement. Il nous l'a donné pour que notre vie nouvelle ait un bon fondement. Amen. Et pour ceux qui l'ont lu, et je vous invite à le relire, c'est un enseignement très fort, hein, qui bouscule. On dirait aujourd'hui, Jésus n'y est pas allé de main morte. Parfois, nous croyons que Jésus est un bisounours. Pas du tout, hein. Relisez le sermon sur la montagne. Ça commence gentiment par les béatitudes, et puis après, ben, ça va crescendo, hein. Et pourtant, que dira son auditoire à la fin du sermon? Malgré la durée du sermon, il était long, hein, et les vérités fortes et bousculantes qu'il leur a dites, il ne les a pas épargnées. Hein. Relisez. Tous restèrent impressionnés par l'enseignement qu'il donnait avec autorité. Amen. Alors après ces mises en garde de Jésus, parce que donc il fait des mises en garde contre les faux enseignements, au verset 15 et 20 de Matthieu 7, pour ceux qui n'ont pas des points de repère, le sermon sur la montagne commence au chapitre 5 de Matthieu et se termine au chapitre 7, à la fin du chapitre 7. Donc après ces mises en garde contre les faux enseignements, au verset 15 et 20 du chapitre 7, et aussi avoir affirmé, tout ça dans la foulée, hein, que tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père, au verset 21 et 23, à 23, il poursuit et termine ainsi son sermon, Matthieu 7, 24 à 27, il poursuit sur le fondement qu'il est, lui, Jésus. Et on va le lire. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Waouh ! Quelle promesse rassurante ! Vous ne trouvez pas ? Quel fondement ! Waouh ! Et il poursuit. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et là, je dirais aussi, waouh, quelle mise en garde, quelle promesse pour la première partie, quelle mise en garde pour la seconde, non ? Et c'est presque à chaque fois, ou c'est comme presque à chaque fois que Jésus s'exprime, un enseignement à la fois encourageant, comme cette première partie, et interpellant, comme la deuxième partie. On aime, nous, souvent, n'en retenir que la partie encourageante, mais comme toujours, les deux parties sont indissociables. Encouragement d'un côté et mise en garde de l'autre. C'est ainsi que Jésus parlait. Alors ici, notons que la différence entre ces deux hommes ne réside pas dans les épreuves que leurs maisons subissent. Non ? Les deux maisons ont dû endurer la même tempête. Ça veut dire par là quoi ? Que Jésus n'a jamais proposé à personne un chemin vers le ciel exempt de tempêtes et de difficultés. Jamais. En outre, ces deux hommes ont entendu tous les deux les mêmes paroles de Jésus. Les mêmes. C'est bien ce qu'il a dit. Je me trompe ? Peut-être. Est-ce que je me trompe ? Non. Merci. Si je me trompe, vous me le dites. Hein. Leur différence, c'est que l'un a mis ses paroles en pratique, fondant ainsi sur le roc unique qu'est Jésus. Amen. L'autre ne les a pas mis en pratique, ou peut-être a fait un patchwork avec des idées personnelles, un peu de parole de Dieu, d'autres principes, d'autres paroles, doctrines, etc., fondant sa vie ainsi sur le sable. Attention, attention au mélange instable. Et pour résumer cette parole très limpide, c'est seulement la parole de Dieu, quand nous l'écoutons et la mettons en pratique, quand nous l'étudions et l'appliquons, c'est cette parole qui est capable d'édifier en nous un édifice de foi solide, approuvé de Dieu, basé sur le fondement de Christ seul. Amen. Mettre en pratique la parole de Dieu, il y a aussi une dimension qu'on oublie, et pourtant qui est importante. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est aussi notre seule et unique façon de manifester notre amour à Christ. Amen. C'est ce qu'il attend. C'est ce que Dieu attend. C'est ce que Jésus attend. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même, Jésus, dans Jean 14, versets 23-24, dans la parole vivante. Si quelqu'un m'aime, Ah, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il fera? Il mettra en pratique ce que j'ai dit, sa parole. Ainsi, donc la conséquence, mon Père l'aimera, nous viendrons tous les deux vers lui et nous nous établirons à demeure chez lui. Waouh! Waouh! Quelle promesse encore! Je me réjouis qu'il y en a qui se réjouissent. Moi, je me réjouis. Quand je relis ça, mais mon cœur explose de joie. Et vous savez que quand Jésus parle, il y a toujours la partie encouragement et la partie mise en garde. Quelle est la mise en garde ? Par contre, celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. L'inverse, on peut dire l'inverse. Celui qui ne met pas mes paroles en pratique, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Et Jésus, sa parole était tellement forte là, qu'il ajoute, et cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père dont je suis l'envoyé. Jean 14, verset 24, parole vivante. Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu, que nous gardions, respections, mettions en pratique ses commandements, c'est-à-dire instructions, exhortations, promesses. Et ces commandements, nous dit Jean, ne sont point pénibles. 1 Jean 5, 3, dans la version Martin. Alors que retenir de ce que Jésus nous dit ici ? Et je termine par cela. Ta parole, Seigneur, n'est pas banale. Hein. Elle est puissante. Elle est puissante. Que retenir ? L'observation de la parole de Dieu est la marque distinctive par excellence qui nous différencie de nos concitoyens. Portons et montrons ce fruit tel qu'il est. Tel qu'il est. Oui. Oui.
C'est facile si on s'abandonne complètement.
Exactement, tout à fait.
Du coup, il prend place
en... Absolument. Et donc je terminerai ça. C'est le Saint-Esprit qui nous y aide. Hein? Tout à fait. Deuxième point que retenir. L'observation de la parole de Dieu est la preuve absolue de notre amour pour Dieu et son Fils Jésus. Nous l'avons lu. On retient bien ça. Hein. C'est la preuve absolue de notre amour pour Dieu et son Fils. L'observation de cette parole. Troisième point à retenir. C'est au travers de la parole de Dieu, bien sûr si elle est gardée et mise en pratique, que Christ se manifeste à nous. Via le Saint-Esprit, dont Jésus dit, et donc ça confirme ce que disait Catherine, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, dans Jean 14, 26. Il vous conduira dans toute la vérité, Jean 13. Si le Saint-Esprit nous en est envoyé, ce n'est peut-être pas pour que nous nous mettions dans un coin, mais pour que nous laissions agir au travers de nous, et que nous laissions son fruit s'exprimer au travers de nous. Amen. Et c'est là, bien sûr, que ça devient plus facile, même facile. Ces commandements ne sont pas pénibles. Lorsque nous laissons agir le Saint-Esprit au travers de nous, lui qui nous rappelle la parole de Christ et qui rend vivante en nous cette parole de Christ. Et la rendant vivante, elle devient ainsi facile à mettre en œuvre. Quatrième et dernier point, on rappelle, c'est par la parole de Dieu que le Père et le Fils entrent ensemble dans notre vie et font leur demeure en nous, manifestant ainsi leur amour en nous. Nous avons vu que aimer Dieu, c'était mettre en œuvre sa parole, c'est l'amour que nous dirigeons vers lui. Et là, il nous parle de, en retour, c'est par la parole de Dieu que le Père et le Fils entrent ensemble dans notre vie et font en demeure en nous, manifestant à leur tour leur amour pour nous. Amen. Alors voilà. Voilà le seul fondement de notre vie chrétienne. Il n'y en a point d'autre. Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Alors soyez bénis.